C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Le premier sujet s'impose, c'est-à-dire le budget. Alors, quels sont les bons côtés, les mauvais côtés du budget? C'est Nathalie qui commence.
Je dirais, Paul, que c'est un budget à l'ADN caquiste. Il y a des thèmes chers à la CAQ qui reviennent de budget en budget. L'accroissement de la richesse, priorité une fois de plus à la santé et l'éducation, qui sont les deux grands ministères gagnants de ce budget. L'aide directe aux Québécois également. Depuis quelques budgets, on parle des questions qui touchent l'environnement de manière plus affirmative, de manière plus positive. Et assumée. Cette année, on a fait de la défense du français, de la culture québécoise, une grande priorité avec des budgets qui dépassent plus de 600 millions de dollars, dont 87 millions à la défense du français. Je dirais que c'est un budget qui va pouvoir, en fait, qui va permettre, parce que là, ce que la CAQ fait, c'est qu'elle met en place tous les éléments pour pouvoir dire à la prochaine élection, nous sommes le gouvernement de dans toute l'histoire du Québec, qui aura fait le plus pour soulager le portefeuille des Québécois. Ça, c'est typiquement caquiste. La CAQ, qui, dès ses débuts, se portait à la défense de la classe moyenne, bien, elle continue dans cette tradition de soulager le portefeuille des Québécois. Maintenant, la grande question, est-ce que ces baisses d'impôts vont faire à ce point la différence? Le ministre te disait tout à l'heure à ton micro qu'il espère que 16 000 personnes vont pouvoir retourner ou demeurer sur le marché du travail. En fait, ce que j'ai compris, c'est que 16 000 personnes de plus qui vont travailler. Est-ce qu'il y en a qui vont choisir de faire un plus grand nombre d'heures? La question est posée. Mais clairement, c'est un budget qui rend les caquistes très, très fiers.
1% de réduction du taux d'imposition jusqu'à 98 000 $. Mais ça veut dire que tout le monde va l'avoir parce que même si tu gagnes 300 000 $, ton oui. premier palier d'imposition, oui. il va jusqu'à...
Si tu payes de l'impôt, tu as une réduction.
Et donc, tu en as plus même si tu payes beaucoup d'impôts. Alors, on parle de 800 $ pour des gens qui gagnent 100 000 $ et plus. Et moi, au début, j'avais pas bien compris que c'était 1,8 milliard de dollars le crédit, c'est-à-dire que ça coûte 1,8 milliard de dollars à l'État. Non, il faut s'enlever ça de la tête. Ça coûte pas 1,8 milliard de dollars à l'État. Ça coûte 1,8 milliard de dollars récurrents. Donc, sur 10 ans, c'est 18 milliards de dollars. Mais l'assiette fiscale augmente constamment à cause de la croissance démographique et la croissance économique. Fait que le 1,8 milliard de dollars cette année, il va valoir 2,5 milliards de dollars dans 5 ans. Il va valoir 3 milliards de dollars dans 10 ans. Fait, en fait, ils viennent de retirer à l'État la capacité d'environ entre 25 et 30 milliards de dollars sur 10 ans. 30 milliards de dollars sur 10 ans. Qu'est-ce que tu aurais pu régler avec 30 milliards de dollars sur 10 ans? Énormément de choses, à commencer par l'itinérance santé mentale, logement, déficit des infrastructures, décrochage scolaire, pas tous ces problèmes-là, mais deux, trois de ces problèmes-là qui nous reviennent sans cesse d'en face. Je comprends pas, moi, un gouvernement qui connaît tous ces problèmes-là, qui les voit apparaître et réapparaître dans sa face, qui est super rapide pour se présenter sur les lieux de crime, par exemple, en disant « Mon Dieu, c'est effrayant, faut qu'on mette des ressources dans la santé mentale ». Je comprends pas que ce même gouvernement-là se dise pas « Hey, j'ai la chance, moi, là, de régler des problèmes ». Des gros, gros, gros problèmes. Puis de pas le faire. C'est quelque chose qui m'échappe.
Ouais, ben dans ton analyse, Luc, je pense qu'il faut pas oublier qu'au fil des années, le gouvernement va continuer de percevoir des taxes à la consommation. C'est également les impôts des particuliers. Ce sont les deux postes qui représentent le plus de revenus pour le gouvernement. Alors, j'ai pas fait le calcul que tu as fait, mais je pense qu'il faut tenir compte aussi des revenus.
Que cet argent-là va être dépensé, donc va générer des taxes.
Oui, ben c'est exactement ce
oui,
que ben, comme, par exemple la baisse des impôts, le ministre dit il y a 16 000 personnes de plus qui vont se retrouver sur le marché du travail, c'est des gens qui vont consommer, c'est des gens qui vont payer des taxes et des impôts. D'ailleurs, la baisse des impôts pour lui non seulement veut comme objectif de stimuler l'économie, mais également il pense que les Québécois vont épargner davantage. Moi, ça m'étonnerait qu'on épargne davantage avec 8 $ de rabais par année par exemple pour quelqu'un qui gagne 20 000 $, mais il faut parler des perdants. Et Luc, je pense que tu seras d'accord avec moi, l'habitation. Les ministres à quelques mois du budget, tous les ministres dans un gouvernement font tous la file au cabinet du ministre des Finances pour dire « Voici ma liste, là, j'ai besoin de ça cette année, Éric, là, monsieur le ministre. » Et là, la conclusion à laquelle on doit arriver, c'est que la ministre de l'Habitation a failli à cette importante mission qui est d'avoir davantage de budget pour améliorer le logement au Québec. Elle n'a pas réussi à convaincre son ministre des Finances de la crise qui sévit dans le domaine du logement. Et je trouve ça triste pour elle parce que, à titre de nouvelle ministre de l'Habitation, elle aurait eu une très belle occasion de marquer son leadership sur cette question-là, mais elle ne l'a pas fait. Elle l'a peut-être fait, mais elle n'a pas réussi à convaincre son collègue des Finances. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Tellement Luc, d'accord. Moi, j'avais noté la même chose. Même chose, même incompréhension avec ce gouvernement-là. Comment ne pas voir la crise du logement? Comment ne pas voir ses impacts? Hier, il y avait Jean-Luc Brassard qui faisait du ski en Gaspésie. Il me téléphone pendant mon émission, puis il me raconte la patente. C'est extraordinaire. On est en train de découvrir ça, là. Oui, non, mais c'est nouveau.
Les chic-chocs, ouais.
Oui, mais pas juste. OK, ça, les chic-chocs. Puis après, il commence à y avoir d'autres propriétaires de flancs de montagne qui permettent de skier. T'amènes en haut en skidoo. Tu sais, c'est du ski sans remontée mécanique, là. C'est face au fleuve, extraordinaire, fantastique. C'est comment ça se fait que le tourisme se développe pas? Il n'y a pas de logement. La femme en bas, là, auberge, café, machin, super, mais elle peut pas engager personne. Personne vient, il n'y a pas de logement. On a la même déclaration à Gaspé, on a la même déclaration à Rimouski, on a la même déclaration à Saint-Sauveur. Comment ça se fait qu'ils comprennent pas que c'est un élément intrinsèque à l'économie? Et si tu as pas de logement, tu peux pas développer. Fait que j'arrive pas à comprendre. On parle plus juste de Montréal, là, où on parle de l'ensemble du Québec. Alors, la crise du logement, effectivement, ils disent qu'ils ont mis un milliard, ils vont mettre un milliard sur le mandat. Donc 200 millions par année. Ils disent qu'il faut pas juste regarder, parce que c'est 1500 logements abordables qu'ils font. 1500 abordables divisé par 500, ça fait 300. Par 5 ans, ça fait 300, 350. Et c'est quoi pour Montréal, là? C'est rien, c'est des clopinettes, c'est rien. Donc, ils disent, ouais, mais on met 191 millions, disent-ils, sur le dépassement de coûts, parce qu'il y a des logements qui n'ont pas été construits, qui auraient dû l'être, parce qu'il y avait des dépassements de coûts. Ils mettent un 191 millions là-dessus. Au total, ils disent qu'ils mettent un milliard parce qu'il y a aussi un peu plus d'aide au supplément d'aide au loyer, à 60 $ de plus.
Oui.
Bon, ça fait un milliard sur 5 ans. Mais l'affaire, c'est que c'est pas structurant. On prend pas le problème à corps.
Là, tu parles de logement. Prends le transport en commun parce que je trouve que c'est un exemple important. Ils rajoutent, là, pour les sociétés de transport, 400 millions. Ce que ça fait, puis pour être certain, là, c'est ce que j'avais compris, mais je dois être bien sûr, j'ai posé la question. Ça règle pas les déficits.
Voilà,
c'est le manque à gagner des usagers qui ne sont pas là. Ce qui veut dire que les coûts fixes puis les augmentations à venir, là, on va se retrouver avec des sociétés de transport déficitaires. Puis c'est le même gouvernement qui m'explique qu'il veut que je prenne l'autobus, qu'il veut que dans le cadre de la lutte au changement climatique, il faut aller vers le transport en commun. Comment tu combines ça, là?
Ils sont pas structurants. Ils sont, tu sais, c'est pareil dans la quasi-totalité des domaines. Tu sais, la DPJ, ils sont pas structurants. Ils ont pas une structure déposée en disant, regarde, on a un plan sur 5 ans. En fait, s'il y a des gestes majeurs. Alors, regarde, pour l'éducation, ils ont dit, on n'est pas capable de nommer des enseignantes dans des régions parce qu'il n'y a pas de logement. Fait qu'on va faire du logement modulaire. On va construire du logement modulaire pour ces enseignantes-là pour les premières années. Mais c'est des solutions à court terme, puis ils ont choisi d'envoyer de l'argent des chèques aux Québécois. Je voudrais revenir, Nathalie, sur l'élément que tu disais, oui, ils vont dépenser en taxes sur la consommation. Moi, je pense que dans un monde en pénurie de main-d'œuvre, ça va surtout se traduire en inflation.
Oui, ben en fait, le ministre pense que... Là, il est encouragé parce qu'il y a des signes qui laissent croire que l'inflation va en diminuant. Lui, pense il y a 50 % de chances qu'on se retrouve, de risque qu'on se retrouve en récession. On verra. Mais moi, je pense pas que ça va... c'est 1,7 milliard récurrent dans l'économie des baisses d'impôts. Est-ce que c'est suffisant pour replonger à la hausse la poussée inflationniste? Enfin, moi, je suis pas économiste, là, mais on va voir comment l'économie va se comporter.
Mais
sur le transport collectif, Paul, là,
oui.
C'est très important ce que tu as dit parce que le problème structurel il perdure depuis plus de 10 ans. Là. Et Geneviève Guilbeault a promis un forum sur la question. Est-ce que ça voudra dire, ou des consultations, qu'au prochain budget, on aura peut-être une solution plus...
Structurante,
voilà, pour répondre à ce problème structurel.
Il y a quelqu'un qui va devoir m'expliquer une chose, par exemple. C'est parce que le ministre qui dit que ça va créer de l'emploi, puis que les gens vont, bon, puis peut-être qu'on va épargner. Juste, si tu gagnes 60 000 par année, là, c'est 8 piastres par semaine de paye.
Ah non, ça va pas épargner avec ça. Oui. C'est un café chez Tim puis un Bing, ça.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que une fois qu'on l'a annoncé, là, on s'en rendra pas vraiment compte. Là, 8 piastres de plus, de moins sur une paye.
Pourquoi? Ça, c'est quelqu'un qui gagne 60 000 $?
Oui. Si tu prends 428 divisé par 52,
c'est
ça donne...
C'est l'équivalent d'un café par jour.
À peu près.
C'est ça, ben oui, voilà.
Café
c'est
fait.
Mais un couple qui gagne 200 000, lui, va pouvoir épargner en impôts un peu plus de 1 600 $. Là, ça commence à être un montant.
Ah, ben, son voyage à Paris. Parce que regarde, les voyages ont augmenté. Ils sont rendus 2 200 $ le billet pour l'Europe. Fait que là, il y en a des deux billets qui est payé. C'est bon? Non, c'est bon.
Mais l'autre tu vois, c'est 1 600 à deux, c'est 30$ par semaine.
Ah, c'est vrai que
oui,
c'est pas...
Oui, mais 30$ par semaine...
Faut que tu sois une discipline d'épargne.
Tu dis une discipline d'épargne, toi, Séraphin, toi, écoute, faut que tu comptes les moindres lignes sur ton budget.
Duplessis donne à sa province.
Mais attends.
On a trouvé un nouvel extrait qui est venu enrichir notre librairie comme ça, bibliothèque.
C'est quoi?
Écoute ça.
C'est comme je le dis tout le temps, laissons Duplessis continuer son œuvre. Ça a pogné la dernière fois. Ça va pogner encore.
On va s'arrêter pour la pause. Puis au retour, notre ex-collègue Bernard qui lance une enquête sur les inconduites et même agressions sexuelles dans les écoles.
La commission Normando-Ferrandaise. 98.5 Montréal. Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, on sait qu'il y a eu un certain nombre de cas de professeurs qui ont été impliqués dans des inconduites sexuelles, voire même des agressions sexuelles. Et le ministre Bernard Drainville a ordonné le déclenchement d'une enquête générale. On lui a parlé ce matin. Ça veut dire qu'il veut faire le tour pour voir, un, si quand on porte plainte, c'est accueilli, reçu, puis qu'il y a un suivi. Et deux, quels sont des mécanismes qui peuvent être mis en place là, pour essayer de limiter ce type d'événement. Alors, est-ce que c'est une opération marketing ou ça peut donner des résultats, Luc?
Ben, c'est une opération marketing. Puis, elle est d'autant plus surprenante qu'elle arrive juste après une autre opération qui avait été faite par la ministre des Sports il n'y a pas longtemps, là. C'est il y a quelques mois que Québec a déclenché une enquête interministérielle afin de faire la lumière sur les allégations de violence physique, de harcèlement psychologique, d'agression sexuelle suite à deux trucs. Un gars qui s'appelle Danny Vincent, qui est entraîneur de basketball féminin, qui aurait fait du harcèlement. Puis ça suivait aussi trois coachs au collège de Saint-Laurent, une école de Saint-Laurent, polyvalente de Saint-Laurent, qui avait fait du harcèlement puis de la violence sexuelle. Donc... je comprends pas comment ces deux études-là vont s'articuler l'une à l'autre. Ils ont le même mandat à peu près. Et c'est à quelques mois d'écart. Puis, dans ces études-là, ce qu'on demande, on demande à toutes les écoles, parce qu'il y en a un petit paquet d'écoles, hein. C'est au total, l'ensemble des lieux d'enseignement au Québec, là, c'est au moins 2000, là, si tu calcules tout, les universités, les cégeps, et les écoles primaires, secondaires, etc. Donc là, tu vas leur dire, ben faites-moi un gabarit, puis dites-moi, est-ce que c'est quoi votre processus de plainte? C'est quoi votre processus d'embauche? C'est quoi votre processus de lorsqu'une une personne se dit victime? Comment elle est traitée, etc. Donc là, si toutes ces écoles-là vont devoir produire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et ça s'en va à Québec. Là, ça t'en prend une quinzaine de fonctionnaires pour traiter cette information-là. Puis pour dire, OK, telle école, vous n'avez pas un processus adéquat. Est-ce que vous avez fait de la formation auprès des professeurs pour qu'ils connaissent le code de conduite de l'école? Est-ce que l'école, vous n'avez pas fait de formation, mauvaise note. Vous avez fait une bonne formation, bonne note. Et on va retourner là 2 ans plus tard. Est-ce que la formation a été faite? Fait que la formation, salade de patates, sandwich pas de croûte, puis bon. Donc, tout ça, c'est un processus hyper, hyper lourd, bureaucratique, cher, sans fin. Est-ce que ça va donner des résultats?
Moi, je pense que ça va donner des résultats. Et j'espère que ça va donner des résultats, mais je crois que non, la démarche est intéressante. Tout d'abord, c'est une première qu'un ministre de l'Éducation déclenche une enquête de type général. Moi, je ne connaissais pas l'expression même de enquête générale. Le ministre a confié l'enquête à ses fonctionnaires de la Direction générale des affaires internes. Il y a un rapport préliminaire qui est attendu le 2 juin prochain et un rapport final le 31 juillet prochain. Donc, ils ont un délai très, très court. Ce qu'on pourrait apprendre, c'est que les violences sexuelles dans nos écoles primaire, mais pas particulièrement les écoles secondaires, parce que moi, ce que je comprends, c'est un mandat pour le secondaire, là, primaire. Je sais pas si Paul Bernard t'a confirmé, là, quel type d'école.
Ben, c'est-à-dire
qu'il
part de 3 cas qui sont dans des écoles secondaires.
Bon,
puis
ben
il peut s'en ajouter. Ces profs qui ont développé des relations inappropriées avec des élèves, là. Puis t'as aussi des jeunes qui ont porté plainte, puis que les plaintes
ont.
Ouais, puis qui n'ont pas eu de suivi, bon. Puis qu'il n'y a pas de. Ouais.
Moi, je pense qu'il va se limiter au secondaire parce que Bernard n'est pas responsable d'enseignement supérieur. Là. C'est Pascal Derry, sa collègue, qui le fait. Alors, ce qu'on pourrait apprendre, c'est que les violences sexuelles dans nos écoles secondaires sont probablement plus répandues qu'on croit. Là, on parle des violences, on parle de cas de profs qui ont eu des relations questionnables avec des élèves, mais les violences qui s'expriment entre les élèves. D'ailleurs, cette demande d'enquête arrive presque un an après qu'un collectif ait fait une conférence de presse à l'Assemblée nationale, le collectif La Voix des jeunes, qui réclamait à ce moment-là, en mai 2022, une loi cadre pour justement qu'on puisse trouver des réponses, des solutions pour prévenir les violences sexuelles à l'école. Et dans ces témoignages qui ont été livrés au moment de cette conférence de presse, il y a une jeune qui décrivait lorsqu'un jeune est obligé de faire une fellation dans le vestiaire, ou lorsqu'un jeune reçoit des commentaires sur ses seins par son professeur devant toute la classe, ou lorsqu'un jeune se fait toucher les fesses à répétition, puis là, il questionnait est-ce que le protecteur de l'élève, qui était mis en place en juin dernier, pourrait répondre à ce type d'enjeu. La réponse de tous ces jeunes, c'est non. Alors, il y a le protecteur de l'élève. Écoutez bien, là, on a le protecteur de l'élève, il y a l'étude, l'enquête, Luc, à laquelle tu as référé. Le Bernard qui demande une enquête générale, là, j'ai envie de dire, là, parlez-vous, gang, là, parlez-vous, parce que là, ça commence à faire pas mal de monde qui ont des mandats qui se ressemblent et qui se recoupent. Mais moi, je pense que ce qu'on va apprendre, c'est que la violence sexuelle à l'intérieur de nos écoles secondaires, à l'intérieur des murs de nos écoles, de nos polyvalentes au Québec, c'est pas mal...
Je pense pas qu'on va l'apprendre.
J'ai pour dire que c'est pas mal pire. Plus pire, je cherche l'expression, mais c'est pas mal pire que ce qu'on pense. Oui, plus pire.
Nathalie, je suis pas sûr que ça va arriver à ce résultat-là. Je comprends bien là où tu veux aller, puis effectivement, il faut avoir une vision large. Mais le mandat permet pas d'aller jusque-là. Ça dit qu'il va analyser trois choses. Le processus de traitement des plaintes, la gestion administrative des comportements problématiques. Donc, un professeur a un comportement problématique, est-ce qu'on le met sans solde ou pas, etc. Puis le processus d'embauche. Fait qu'à mon avis, là, c'est une demande qui est envoyée à la direction avec un gabarit, un formulaire. Est-ce que vous avez ça dans vos processus d'embauche ou vous l'avez pas? Qu'est-ce que vous faites lorsque vous mettez un professeur en suspension? C'est quoi votre processus de traitement des plaintes? À mon avis, ça s'arrête là, là. Puis c'est pour ça que je dis que c'est de la bureaucratie.
Mais comment t'expliques qu'un pimp proxénète, là, puisse se faire embaucher dans une école puis que le gars a un dossier criminel et tout ça.
Ça va de bon sens.
Que deux, moi je te le dis, dans le cas du centre de service scolaire des Patriotes, là, sur la Rive-Sud, le lendemain où cette histoire-là est sortie, j'avais des profs qui m'écrivaient en disant, on a averti la direction, le gars-là avait des comportements qui n'avaient pas de bon sens. Mais personne ne faisait rien. C'est ce bout-là, moi, qui m'échappe.
Ben, moi, je ne comprends pas non plus, je ne sais pas. Je suis incompétent là-dessus. C'est-tu une école ou c'est une commission scolaire au complet?
Ben, c'est un centre d'école de relève. Oui.
Non, mais oubliez pas que les RH, les ressources humaines, ça relève non pas de l'école, mais ça relève des centres de services scolaires. Donc, cette responsabilité d'embaucher du personnel scolaire, des enseignants, des professeurs, ça relève des centres de services scolaires. Moi, je ne vais pas faire dans le populisme ce matin, là, mais quand je vois tous ces cas là, qui ont été médiatisés au cours des derniers mois, je me dis, nos écoles, qui sont censées être des lieux sécuritaires, seraient-elles devenues des passoires pour des prédateurs sexuels?
J'ai une question alternative.
Tu peux se poser la
pas
question,
sympathique.
Oui.
J'ai une question alternative pas sympathique, là, mais néanmoins, je la pose. Est-ce que ça se peut au contraire que ça soit lié à la nouvelle vigilance par rapport à une nouvelle sensibilité par rapport à l'abus? Parce que ça, c'est pas des cas qui se sont passés la semaine passée. Là. Ce sont des cas qui se sont passés sur plusieurs...
Stanislas, mais ça, c'est récent, ça.
Justement, il décèle un cas qui s'est passé dans les années passées. Donc, est-ce que c'est pas, il n'y a pas justement une nouvelle sensibilité qui permet de dire, hey, wow, on a laissé passer telle affaire qui a eu lieu pendant 5 ans auprès d'une jeune fille?
C'est comme la prof qui est en couple avec une élève.
Pendant combien de temps?
13 ans, je pense.
13 ans. Donc, aujourd'hui, on ne laisserait plus passer, puis on revient sur le passé en se disant, wow, on ne laisserait plus jamais passer ça. Je ne suis pas certain que. Parce que, tu sais, Ruba Gazal qui a dit exactement ça, qu'elle a dit, on est dans un mouvement MeToo scolaire, on a une croissance formidable de l'agression sexuelle dans nos écoles. C'est une hypothèse, mais j'aimerais voir qu'on... Peut-être que c'est... Elle n'est pas garantie, cette hypothèse-là, que les professeurs actuellement seraient dans une croissance d'agression envers les enfants.
Non, mais non, sauf que Marois Risky, elle parle de fléau. Alors, je sais pas comment on peut quantifier tout ça. En passant, les deux partis d'opposition, PLQ et QS, sont d'accord avec la démarche du ministre de l'Éducation. Mais ce qu'on constate, c'est que les langues se délient maintenant.
Oui.
De plus en plus.
Oui.
Il y a des plaintes. Et c'est ce qui fait qu'il y a des enquêtes. Et les enquêtes, parfois, conduisent à des arrestations, comme celle qu'on a vue pour le professeur au collège Saint-Stanislas. Il faut évidemment saluer tout ce contexte, tout cet environnement qui est créé, qui permet aux élèves de dire, ben non, là, maintenant, c'est tolérance zéro. Sauf que ce message-là de tolérance zéro, il faudrait l'entendre de la bouche des centres de services scolaires. Parce que là, ce qu'on a l'impression, c'est qu'ils sont plus dans une logique d'omerta, tu sais. Ah, parce qu'ils veulent pas se faire taper ses doigts pour se dire, vous avez donc bien été négligent, coudon. Comment se fait-il, vous avez pu embaucher des profs qui ont fait ce qu'ils ont fait, qui ont pu agresser des élèves? Mais ce qu'il faut faire, non seulement libérer la parole pour les élèves, mais il faut que les centres de services scolaires soient plus transparents, non seulement dans la façon dont le processus d'embauche se fait, mais lorsqu'il y a des cas qui sont problématiques, bien, ils ne doivent pas hésiter à prendre des mesures pour dénoncer tous ces profs qui sont une nuisance, qui sont toxiques pour les élèves.
J'ai envie d'être un peu populiste, moi aussi.
Go!
Ah, ouais.
Est-ce que ce sont les nouveaux curés, c'est-à-dire un prof abuseur, on change de paroisse?
Mm.
On a fait ça avec l'Église catholique. Puis l'Église catholique a tout fait pour étouffer bien des scandales. Puis est-ce qu'on a peur des poursuites? Tu comprends? Si t'est arrivé quelque chose?
Ouais.
Je ne fais que réfléchir à haute voix de façon démagogique. Mais quand même, quand même.
Comme t'es un vieux sage.
Non, mais...
On pense que c'est une hypothèse possible.
T'sais, des fois, là, tu te demandes pourquoi, tu sais, de dire on l'a échappé, tombé entre deux chaises.
Le processus d'embauche, effectivement.
Hey, je trouve ça big un peu, là, mais bon.
C'est 23.